RTL Info.
Myriam Midver.
Bonjour, une nouvelle soirée réussie pour Festineuge. Malgré la pluie, tous les tickets de la soirée d'hier ont trouvé preneur. C'est le concert de Midnight Oil a fait sensation. Parcells a ouvert les feux avec la manière. Le Laténium a ouvert une partie de ses réserves au public hier à l'occasion des journées de l'archéologie. Le musée d'Autrive possède un demi-million d'objets et n'en expose que quelques milliers. Le FC Le Locle jouera toujours en deuxième ligue interrégionale de football la saison prochaine. Il a assuré son maintien hier. On en parle dans notre page magazine avec l'entraîneur Johan Mazzoleni. De son côté, le FC Marin a remporté le titre cantonal de deuxième ligue neuchâteloise. Séquence émotion avec l'entraîneur Pascal Valla, fier aussi de ce trophée. Le soleil va s'imposer au fil des heures cet après-midi. Conditions estivales dès demain. Troisième soirée réussie malgré la pluie pour Festineuge qui affichait complet hier soir. Parcells a ouvert le bal sous un chapiteau plein à craquer. Si certains cherchaient simplement à s'abriter, les fans du groupe australien et les festivaliers ne connaissant pas sa musique se sont vite mis d'accord en dansant sur le groove du groupe australien. Lydiane Guenat est allée à la rencontre de deux festivalières conquises à la fin du concert.
Eh ben, c'était hyper chouette, c'est un groupe que je connais beaucoup, j'écoute son album en boucle. Et puis c'est vrai que dès qu'ils sont en Suisse, mon ami et moi on va les voir en concert et à chaque fois c'est différent, à chaque fois ils s'éclatent sur scène. Puis c'est chouette parce que c'est un groupe qui n'est pas encore extrêmement connu, donc c'est beaucoup plus accessible. Donc c'est ça qui fait aussi que c'est une bonne qualité de concert, c'est qu'on n'est pas tout derrière dans un stade et où c'est tout le temps la même chose. Vraiment malgré la pluie, la boue, le froid... Franchement, c'était hyper chouette.
J'ai beaucoup aimé, c'est très vivant. Il y a des sonorités qui me rappellent quelques années en arrière. J'ai eu beaucoup de plaisir, vraiment. Je ne les connaissais pas, j'ai découvert et je suis très contente.
Et puis on a vu beaucoup de monde danser un peu. Vous avez dansé aussi ?
Bien sûr, on est là aussi pour ça, pour bouger. C'est très festif leur musique.
Festineuge, c'est encore aujourd'hui au Genève avec au programme Bastian Becker ou encore Zazie. Des billets sont encore disponibles pour cette dernière soirée et vous pouvez retrouver une galerie photo de la soirée sur rtn.ch. La mémoire est à l'honneur ce week-end à travers l'Europe à l'occasion des journées de l'archéologie. Hier, le Laténium à Autrive ouvrait les portes d'une partie de ses réserves. Les visiteurs ont pu découvrir une partie des trésors non exposés à l'intérieur du musée. Même s'ils ont été étudiés de nombreuses fois, ces objets n'ont pas fini de révéler des secrets. Géraldine Delay, directrice adjointe du Laténium.
La science, elle se construit par des nouveaux éclairages. Les choses ne sont pas figées. C'est pas parce qu'on a fait une découverte à un moment donné qu'on pourra pas la remettre en question 10 ans plus tard, 50 ans plus tard ou 100 ans plus tard. Au contraire, l'archéologie montre précisément que la recherche, c'est quelque chose qui se recrée au fil des tendances, au fil des méthodes qui se développent, au fil des outils méthodologiques qu'on peut avoir, mais aussi en fonction des questionnements que peuvent avoir les chercheurs, qui peuvent être influencés par la situation politique, par toutes sortes de choses. Le réchauffement climatique va encourager peut-être les archéologues à se poser des questions sur le changement climatique dans le passé. Donc des événements, la société en général influence le chercheur qui est un acteur social comme les autres et qui va être amené à reposer ou à poser de nouvelles questions sur des mêmes objets. Et c'est pour ça que la documentation archivistique qu'ont produite les archéologues au moment où ils ont découvert les sites qu'ils ont fouillés est extrêmement importante. Il faut pouvoir revenir sur cette documentation pour pouvoir réinterpréter les choses sous une lumière nouvelle et c'est comme ça qu'on peut refaire de nouvelles découvertes en réanalysant des choses, des ensembles de mobilier, d'objets, en réanalysant la documentation d'une fouille qui a pu avoir lieu il y a 100 ans par exemple.
Les journées de l'archéologie continuent aujourd'hui avec un circuit découverte au Val-de-Rue, départ à 14h15 de Fontaine. La Suisse romande a été frappée par de violents orages hier en fin d'après-midi. Genève a été particulièrement touchée. La grêle a également été au rendez-vous localement. Le front orageux a traversé ensuite l'arc lémanique, les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et de Berne, avec des précipitations soutenues et des rafales de vent tempétueuses. Une touriste a perdu la vie dans le lac Léman. Elle est décédée sur un bateau de plaisance qui a coulé. C'est parti pour la Robert Walser Sculpture à Bienne, à la structure en bois qui s'inscrit dans le cadre de la 13e édition de l'exposition suisse de sculpture, accueille depuis hier ses premiers visiteurs devant la gare. L'installation de l'artiste suisse Thomas Ischorn rend hommage à l'écrivain biennois Robert Walser, né en 1878. La structure est animée par différents ateliers tenus par des gens de la région, le tout accessible gratuitement. Après 3 ans de travaux préparatoires et 2 mois de construction, nous avons demandé à Thomas Ischorn son sentiment à l'ouverture.
On est heureux, moi je suis heureux, il y a beaucoup de gens qui sont là, tout le monde est là, donc on est heureux qu'on ait attendu et que finalement la sculpture va commencer de se construire chaque instant, chaque moment, chaque minute, chaque heure, chaque jour. C'est ça qui est nouveau ici, que cette sculpture elle se fait avec les gens qui viennent et qui densifie ce que j'espère, et qui rajoute et qui produise quelque chose.
Une question un peu moins réjouissante, vous aviez lancé un financement participatif qui se termine aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes dans la récolte de fonds?
On est bien, parce que nous, le crowdfunding, qui était plutôt un échec, mais un échec partiel, parce que nous, on n'a pas seulement fait du crowdfunding, on cherche de l'argent partout, notamment moi, m'implique moi-même dans la recherche de l'argent, pas via le crowdfunding, mais via des gens que je connais, où j'essaie de les convaincre de nous soutenir par rapport au monde de l'art. Donc, on a décidé, pendant la phase du montage, mais aussi maintenant, pendant la phase de l'exposition, de continuer de trouver de l'argent, et on trouve. Et d'ailleurs, on est plutôt bien par rapport à budget.
Le budget initial prévoyait un montant de 2 millions, mais seul 1 million 35 000 francs avait été récolté au moment de lancer les travaux de construction. Le financement participatif qui s'est terminé hier a récolté une somme comprise entre 26 et 30 000 francs. C'est bien moins que les 200 000 escomptés. Il est prévu que la plateforme soit ouverte jusqu'au 8 septembre. Elle est accessible tous les jours de 10h à 22h. À l'étranger, l'épouse du Premier ministre israélien Sarah Netanyahou a été reconnue coupable aujourd'hui d'avoir fait passer indûment des dépenses de repas aux frais du contribuable. Initialement inculpée en juin 2018 pour fraude et abus de confiance, Sarah Netanyahou a négocié un accord qui a été accepté par le tribunal de Jérusalem. Elle a finalement été reconnue coupable d'avoir exploité les erreurs d'une autre personne et est condamnée seulement à payer une amende ainsi que des frais de dédommagement. Et une nouvelle manifestation monstre est attendue à Hong Kong, malgré la suspension hier du projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Le texte est à l'origine depuis une semaine d'une vague inédite de colère et de violence. Les organisateurs de la manifestation entendent maintenir la pression. Ils réclament le retrait définitif de ce texte jugé dangereux pour les droits de l'homme.
Le magazine.
Le FC Le Locle l'est sauvé, néo-promu, le club de la mer commune a assuré son maintien en 2e Ligue interrégionale de football hier, à l'occasion de l'ultime journée du championnat. Les joueurs de Johan Mazzoleni ont partagé l'enjeu de partout avec gain. Ils ont arraché le point nécessaire qui leur permettait d'être mathématiquement assurés de leur maintien. C'est le sujet de notre page magazine avec Marcel Neuen van der. Bonjour.
Bonjour, et nous avons en direct l'entraîneur du club Le Loclois, Johan Mazzoleni. Bonjour également.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints par téléphone. Néo-promu, donc, le FC Le Locle a fait le pari de disputer ce championnat quand même sans forcément beaucoup se renforcer. Alors, pari gagnant en quelque sorte, Johan, il y a quand même une certaine satisfaction de ce résultat, de ce maintien.
Oui, bien sûr, c'est un pari gagnant et c'est surtout qu'on a voulu continuer avec les joueurs qui avaient fait l'ascension de 2e à 2e inter. On a fait quelques petits ajustements, on a intégré quelques jeunes joueurs et puis heureusement, ça a payé à la dernière journée, mais ça a payé.
Oui, de peu, mais ça a payé. C'est ça l'essentiel, hein, Johan.
Exactement.
Le saut de qualité entre cette 2e ligue neuchâteloise et la 2e ligue interrégionale, à vos yeux, il est important?
Oui, il est très important au niveau du rythme et puis au niveau de l'aspect technique. Après, dans tout ce qui est duel physique, c'est assez similaire à de la 2e ligue. Mais ensuite, c'est vrai que tactiquement, il faut vraiment être au top. Il faut essayer d'amener un petit truc en plus par rapport aux autres équipes. Et après, c'est sûr qu'on n'a pas le même bassin de joueurs sur le canton de Neuch que sur Fribourg ou que sur Vaud. Donc c'est vrai que c'est là où ça complique pas mal la donne. Mais je suis vraiment content parce que justement, on a pu faire ce qu'il fallait avec des joueurs qui ne sont pas payés. Et puis c'est aussi des joueurs qui viennent de la région.
Est-ce qu'à vos yeux, le Locle doit essayer maintenant de s'installer durablement dans cette 2e ligue interrégionale? Plus facile à dire qu'à faire peut-être?
Ouais, ce serait vraiment bien. Comme vous dites, c'est vraiment compliqué parce que, bah voilà, de nouveau, le bassin de joueurs, on a quand même un FC La Chaux-de-Fonds qui est en-dessus de nous. On a quelques juniors, bah voilà, nos intérêts ont malheureusement coulé. Donc, ça va être aussi compliqué pour des joueurs de faire le saut, même si c'est toujours possible. Donc voilà, j'espère que le recrutement pourra sourire au Loclois pour qu'on puisse justement s'installer et pas faire l'ascenseur toutes les années ou tous les deux ans.
Est-ce que vous avez quand même un réservoir de joueurs qui ne vous permet pas d'aller puiser quand même dans ces juniors? Il y a quelques-uns peut-être qui peuvent faire ce saut, ce gap, si vous me passez l'expression.
Alors, c'est toujours aussi ça va un petit peu dans les deux sens. Il faut que les entraîneurs fassent confiance aux jeunes et il faut que les jeunes qui soient là s'accrochent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent pas être titulaires tout de suite, qu'ils ont encore un travail à faire, qu'ils doivent apprendre certaines choses. Et justement, il faut vraiment qu'on trouve des joueurs qui ont la culture du travail, qui sont prêts à s'investir, à se sacrifier. Moi, quand j'ai repris le FC Le Loc il y a 3 ans, je me rappelle que j'avais intégré quelques juniors Intera que j'avais au FC La Chaux-de-Fonds. Ça n'a pas été facile pour eux tout de suite. Puis ils ont continué à travailler. C'est devenu des titulaires chez moi. Donc, c'est pas impossible, mais il faut que les jeunes aient la volonté de s'intégrer dans un groupe où il y a des joueurs plus âgés. Et il faut qu'ils soient prêts à faire un sacrifice physique, technique, tactique. Il faut qu'ils mettent un petit peu le foot en avant et de temps en temps un peu moins les sorties. Et ça, c'est toujours compliqué.
À propos de jeunes, justement, Johan Manzoleni, vous avez dirigé hier votre dernier match à la tête du FC Le Loc. Vous allez entraîner dès cet été la sélection des moins de 16 ans de la Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d'élite. C'est une approche, j'imagine, totalement différente. Comment vous l'entrevoyez ?
Alors c'est complètement différent, c'est sûr, et il va falloir que je m'adapte un petit peu parce que ben voilà, sur cette saison, on était basé uniquement sur le résultat parce qu'il fallait se maintenir. Et là maintenant, je vais intégrer un projet qui est beaucoup plus sur du long terme, sur de la formation où le résultat compte moins mais où les principes sont très importants. Donc ce sera à moi de m'adapter, puis je sais que je vais récupérer une équipe qui est déjà prête à faire ce genre de sacrifice là où on va apprendre énormément. Donc moi, je me réjouis de travailler vraiment avec des jeunes qui vont être investis, qui vont avoir envie, qui seront nombreux aux entraînements. Et puis, le projet, il est ambitieux. Et puis, je vais devoir m'adapter. Et je me réjouis justement d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans la Fondation Gilbert Facchinetti.
Johan Manzoleni, merci beaucoup et bonne fin de week-end. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.
Et votre successeur à la tête du FC Le Loc l'est connu, il s'agit de Renato Rota qui a déjà dirigé le club par le passé. Il sera assisté d'Alain Menanga, visage aussi incontournable du football régional.
RTL, il est 12h27.
Sport. Et oui, on quitte la page magazine pour rejoindre le point sport. Donc ce FC Le Loc qui a assuré de son maintien en deuxième ligue interrégionale de football. Ce n'est pas le cas du Stade Payen, car à moins d'être repêché sur le tapis vert, le club broyard est lui condamné à la relégation sans avoir joué hier. Son match a été renvoyé. Le titre de deuxième ligue neuchâteloise se jouait également hier par adversaire interposé entre le FC Marin et le FC Béroche-Gorgier. En cas de succès, le club marinois était assuré de soulever le trophée. Il a fait le travail, il n'a pas raté son affaire puisqu'il s'est imposé 2-1 sur le terrain du FC Boudry. Et puis pour l'anecdote, en raison de l'orage, la rencontre entre Béroche-Gorgier et Neuchâtel City a été arrêtée alors que les Bérochaux menaient 1-0. Ceci dit, le FC Marin donc est sacré champion cantonal. C'était la fête pour les joueurs marinois et leur entraîneur Pascal Valla, plutôt ému à l'heure de l'interview.
Écoute, c'est de la fierté. Moi, j'ai repris à 3 ans et demi pour dépanner 6 mois. Maintenant, ça fait 3 ans et demi. On fait 2 promotions en 2 ans avec des gars qui jouent avec le cœur, des gars qui jouent pour le club. Mis à part le niveau, je pense que c'est pour moi, dans le football amateur, c'est ça qui est important.
C'est une surprise, ce titre ?
Oui et non. Au niveau qualité d'effectif, qualité de joueur, je dirais que ce n'est pas une surprise. Par contre, on a un amalgame entre les anciens et les jeunes qui fonctionne bien. Il y a une belle osmose. Nous, on a fini l'année passée 4e. C'était notre première année en deuxième ligue. On avait comme ambition de finir dans les 3 premiers. On était quand même sûr des valeurs qu'on avait dans le potentiel équipe, quoi.
On voit le staff très très ému hein, ce soir autour de vous.
Ouais, disons que toutes les petites histoires qu'il y a eu avec le match de Cofrane, tout ça, là je tire le chapeau à l'équipe parce qu'il a fallu attendre, patienter, on ne savait pas trop où c'est qu'on allait. Mais c'est vrai que ça gâchait un petit peu la fin de championnat, quoi.
Oui, ce fameux match contre Crofan avait été interrompu en avril dernier à la suite d'un incident avec un spectateur. Le FC Marin menait alors 3-0. Le résultat de cette partie n'a vraiment été entériné que vendredi. Le FC Marin dispose maintenant de 3 jours pour accepter ou refuser sa promotion en 2e ligue interrégionale. Condamné à la relégation en 3e ligue, Neuchâtel City et la 2 de Xamax se retirent de toute compétition pour la saison prochaine. Et puis c'est mal parti pour l'Argentine à la Copa América de football. Elle a perdu son premier match du tournoi contre la Colombie sur le score de 2-0. Enfin, en motocyclisme, Thomas Lutti vient de s'élancer sur le circuit de Montmeló lors du Grand Prix de Catalogne des Moto2. Le pilote bernois avait signé le 2e temps des essais et c'est plutôt bien parti pour lui puisqu'il a immédiatement pris le commandement des opérations. Après 4 tours de circuit, le bernois est toujours en tête, mais il lui en reste tout de même encore 18 à parcourir.
Merci beaucoup Marcel Schwander. Ouais, c'est vrai que dans la moto ça va très vite, hein. Ça change de place, ça se dépasse là. Est-ce que c'est toujours le cas? Il a toujours les commandes?
Oui, alors effectivement à 17 tours de l'arrivée il a toujours les commandes, mais il est suivi de près là. Ah non, c'est pas vrai. Eh bien ça vient de changer puisque maintenant c'est l'Espagnol Augusto Fernandez qui a pris la tête devant Thomas Lutti. Mais les deux hommes véritablement sont roue dans roue. D'ailleurs c'est toujours très spectaculaire ces grands prix de moto.
Oui, j'imagine que vous allez y revenir dans le journal de 18h. Merci à vous Marcel. On prend des nouvelles du ciel. Pour ce dimanche, eh bien, ça va se dégager, ça va s'améliorer un petit peu pour demain matin. Mais, on ne se réjouit pas trop vite, hein, parce que les nuages n'ont pas dit leur dernier mot, les ondées non plus, puisque par-ci, par-là, tout au début de la semaine prochaine, eh bien, on aura droit à ces ondées pluvieuses qui pourraient apparaître par-ci, par-là, sous forme d'orage ou sous forme de simple pluie avec de gros cumulus. Les températures aujourd'hui pour la journée, 21 degrés au meilleur de la journée autour du lac, 19 degrés pour les vallées et 18 degrés pour les hauteurs. On va retrouver un système beaucoup plus soutenu en pluie à partir de jeudi, mais d'ici là, les températures vont augmenter, elles vont même atteindre les 30 degrés mercredi à nouveau. Ah, ça commence à sentir bon l'été.